pouvoir nous édifier, de pouvoir nous assister, de pouvoir nous parler, que tu puisses te saisir de chacun d'entre nous, non seulement ici présents, mais tous ceux qui sont derrière leurs écrans en train de regarder. Merci Père pour nous avoir donné les moyens de retransmettre ceci afin de permettre à ceux qui ne peuvent venir à cause du mauvais temps que ta parole puisse leur arriver et que cela soit une parole qui nous aide à nous préparer, une parole qui nous aide justement à ce grand rendez-vous que nous venons de mentionner dans le cantique, dans le petit cœur. Bénis cette parole, Père. Bénis chacun de tes enfants, là où il est. Sois avec nous, ô Dieu. Pardonne-nous nos péchés. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous savons que Dieu, la tempête ne l'arrête pas pour parler. Dans Job, chapitre 38, alors que Job était en pleine tempête, beaucoup de choses lui sont arrivées, beaucoup de calamités il a dû subir. Eh bien, dans ces moments-là difficiles, Dieu lui a parlé en plein milieu de la tempête. Il nous est dit dans Job 38, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. » Il était en plein milieu et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» La tempête ne tient pas Dieu dehors. Il est réellement toujours avec vous, à côté de vous. Et cela peut être une fournaise. Il est là également. Que son nom soit loué. Nous allons lire ce soir dans Daniel chapitre 5. En vue de nous exhorter mutuellement à nous instruire de ce qui est écrit dans la Bible pour nous préparer à la venue du Seigneur. Daniel chapitre 5, verset 5, à partir du verset 5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication, sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous intitulerons le sujet de ce soir « Quiconque lira cette écriture » et en donnera l'explication. Le roi cherche ici quiconque, n'importe qui peut lire cette écriture. Cette écriture est écrite des doigts de Dieu, selon qu'il est dit au verset 5, les doigts d'une main d'homme. Et nous savons que avec ses doigts, n'est-ce pas, Dieu écrit. Des écritures qui ont été données à Moïse, les tables, ont été écrites avec le doigt de Dieu. Exode 31. Verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. C'était une écriture écrite par Dieu lui-même. Plus tard, Pierre nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Et nous considérons toujours que c'est la parole de Dieu. Maintenant, lorsque Belshazzar dit, quiconque lira cette écriture, quand Dieu écrit quelque chose, quand Dieu écrit sa pensée, sa parole, elle n'est jamais adressée à quiconque. Elle est adressée à une certaine catégorie de personnes. Quiconque n'a pas, malgré l'instruction que l'on peut avoir, comme c'est le cas ici à Babylone, on peut appeler tous les sages, les astrologues, les chaldéens, des gens qui ont appris à écrire et à lire dans les écoles, n'est-ce pas? Eh bien, c'était du surnaturel, cela ne leur était pas adressé. Pour pouvoir lire une écriture divine, il faut avoir été à l'école du surnaturel. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre nous dit expressément ceci. Romains 8. Verset 27, « Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède, l'Esprit intercède en faveur des saints. » Or, pour pouvoir connaître, savoir ce qui est écrit, encore faut-il que l'Esprit Saint nous guide, nous conduise. Et ce n'est pas pour rien que nous avons vu il y a quelques jours, que pour être enseigné, c'est l'onction elle-même, l'onction du Saint-Esprit qui nous enseigne. Lorsque, comme le frère disait la fois passée, lorsque on trouve l'enseignement rébarbatif, c'est qu'on a un problème à suivre Christ. Christ était appelé Rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Et tout au long des évangiles, il prêche rarement. Ce qu'il fait, il enseigne. Et il enseigne, et souvent, ce qu'il enseignait, seule une catégorie de personnes, une certaine catégorie de personnes comprenait ce qu'il enseignait. Et aujourd'hui, le frère a encore aussi parlé, mercredi, des deux pluies de la première et de l'arrière-saison. Une des deux pluies, la première, c'est une pluie d'enseignement. Oui. Et cette pluie qui est la pluie de la première saison, qui est promise, c'est une pluie d'enseignement. L'autre est une pluie de maturation, où ça vous arrive, n'est-ce pas, où ça arrive à la maturité. La pluie apporte la maturité. Il y aura une pluie d'enseignement. Les gens doivent être enseignés. Et s'ils ne le sont pas, ça pose un problème. Et quelqu'un qui n'écoute pas l'enseignement de Dieu, ça lui pose un problème que de savoir, que de pouvoir reconnaître. Nous allons voir, même dans le cas de la prière, on ne sait pas bien prier si on n'est pas bien enseigné. Vous voyez ? Donc, c'est cela le problème. Et bien sûr, la prédication, c'est une bonne chose. On peut prêcher sur la puissance du Dieu vivant. On peut dire, rien n'est impossible à Dieu. On fait une grande prédication là-dessus. Mais quant à savoir où vous en êtes, ce qui vous est réellement destiné, vous risquez de ne pas le savoir. Et vous devez absolument être prêt à recevoir ce qui vous est destiné. Hier, nous étions avec mon frère Bernard, quelque part dans un garage, et il m'a fait remarquer que j'avais un clou dans un pneu. Lui, il est parti, on s'est dit au revoir. Moi, je suis allé à l'atelier, je lui ai dit, écoutez, j'ai un clou dans mon pneu. Et c'est un garage où ces gens-là, on se connaît, ça fait longtemps que je vais toujours au même garage. Et sachant que je suis dans une assemblée chrétienne. Alors il me demande, qu'est-ce que vous faites réellement dans l'assemblée chrétienne? Moi, je dis, ben, nous sommes une église, si tu veux, mais ce qu'il y a, nous rassemblons le mercredi, le vendredi, le dimanche. Si tu veux, tu peux venir voir, nous n'avons rien à cacher. Et il me dit, oh, mais moi, ces choses-là. Et il y a plein de gens comme ça aujourd'hui. Ces choses-là, ils n'y croient pas, c'est bien. Mais pendant qu'ils n'y croient pas, je ne parle pas seulement de lui hier, mais quasi le monde entier, les gens sont angoissés aujourd'hui lorsqu'ils voient ce qui se passe en Ukraine. Y aura-t-il une guerre mondiale, une guerre nucléaire ou pas? Y aura-t-il ceci ou cela ou pas? Si vous êtes bien dans les Écritures, vous savez si cette guerre éclatera maintenant ou pas. Parce que Dieu connaît le passé. La Bible est un livre du passé. La Bible est un livre du présent. Et la Bible est un livre du futur. Quand est-ce que cette guerre éclatera? C'est simple. Comme il a été dit, au temps fixé. Et ce temps fixé nous est donné dans les Écritures. Oui. Et il est important pour nous que de savoir quand est-ce que ces choses arriveront. Pour nous, nous savons que ce que nous avons à faire, c'est de nous attendre à Dieu selon la promesse qu'il nous a faite. Beaucoup d'événements qui se passent aujourd'hui nous sont apportés, nous sont donnés un peu comme des écritures. C'est-à-dire les événements que nous voyons arriver, eh bien, nous renseigne également sur le temps dans lequel nous vivons. Une des choses que le Seigneur a promises, il en a promis pas mal, surtout dans Matthieu 24, il dit par exemple, lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, c'est un signe que le Seigneur donne. Et ceux qui sont enseignés sur ce que c'est que le figuier, n'est-ce pas? Et qui voient le figuier bourgeonner, ils savent très bien ce qu'il en est. Matthieu 24. Verset 32, il nous est dit. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. À partir de ce genre d'écriture, même quelqu'un qui n'a pas appris à lire et à écrire à l'école, mais lorsqu'il entre dans l'école du Saint-Esprit, il peut vous interpréter cette parole. Le jour de la Pentecôte, Pierre dit ceci, alors qu'il ne savait ni lire ni écrire. Pierre cite une prophétie faite plusieurs siècles auparavant et il nous assure, il dit, c'est ici ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Ceux qui ont appris à lire et à écrire de manière traditionnelle n'en savaient rien. Par contre, étant assis dans la chambre haute, ayant appris à attendre la promesse du Père, et cette promesse étant accomplie, Pierre était capable de présenter la chose dans son actualité. Ce grondement que vous avez entendu, cette terre qui a tremblé, ce vent qui a soufflé avec impétuosité, eh bien, c'est l'accomplissement de ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Amen. Et heureux sont ceux qui apprennent cela. Heureux sont ceux qui savent cela. Parce que, vous savez, c'est bien beau, nous le savons, au cri de l'archange. Qu'est-ce que Dieu appelle cri? Jusqu'ici, nous ne savons pas. Mais lorsque le Saint-Esprit nous dira, c'est ça le cri, là on le saura. Tant que nous ne saurons pas, on va attendre un cri selon les hommes. Amen. On va attendre un cri selon nos habitudes lorsque nous entendons des cris. Mais quand Dieu, quand la Bible, le Saint-Esprit dit au cri, au son de la trompette, de quelle trompette il s'agit? Vous allez attendre la cavalerie sonner de la trompette? Vous ne savez pas. Maintenant, mais il y aura une interprétation qui vous dira, il y a quelqu'un qui vous enseignera, comme Pierre le jour de la Pentecôte, c'est ça le son de la trompette. C'est ici ce qui a été prophétisé depuis un Thessalonicien. C'est ainsi, nous marchons par la foi en cette parole, nous portons notre assurance dans cette parole, et nous savons que Dieu ne lâchera pas les siens. Et nous avons donc intérêt, n'est-ce pas, à rester toujours, comme on l'a chanté pendant que j'entrais, j'ai entendu, n'est-ce pas, son disciple à ses pieds. C'est là que nous apprenons. Et nous apprenons des choses concernant l'actualité. Ce qui se passe en Ukraine, le monde a son explication. Mais le Saint-Esprit a la sienne. Le monde donnera l'explication. Il y en a qui suivront l'explication selon le monde à la radio ou à la télévision. Mais d'autres suivront l'explication suivant ce que Dieu a dit. Et Belshazzar, ce roi qui était en Babylone, il était entouré d'une cour de personnes qui avaient étudié, d'une cour de personnes qui avaient une certaine sagesse, d'intellectuels, et il pensait que ces intellectuels à lui avaient la capacité de lui lire la simple écriture qui venait d'être écrite sur la muraille. Et c'était simple. Il n'y a pas beaucoup. On en verra. On verra ce qui a été écrit. Nous le lirons, ce n'était pas un grand texte. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, ce n'est pas adressé à quiconque. Ce n'est pas adressé à n'importe qui. Ce n'est pas du tout une question de quiconque. Toujours dans Matthieu 24, puisqu'on y est, le Seigneur donne aussi encore ce signe, au verset 15. Par exemple, il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Maintenant, je peux dire à vous qui êtes ici ce soir, je peux vous demander, ou à ceux qui suivent sur YouTube ce soir, je peux demander à quiconque de regarder dans Daniel, où est-ce que Daniel décrit cette désolation? Il ne la décrit pas. On lui en parle par l'ange. Et maintenant, de quelle désolation s'agit-il? En Israël, il y a eu plusieurs désolations. Mais ici, il est spécifié d'une seule désolation. Et pour le savoir, donner l'explication de cette écriture, il ne faut pas être quiconque. Il faut s'appeler Daniel pour cela. Amen. Il faut être un Daniel pour cela. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Oui. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Oui. Les Thessaloniciens, il y a eu des tribulations, il y a eu des persécutions, il y a eu des temps difficiles. Mais cela a été interprété par beaucoup comme étant, frère, c'est le jour du Seigneur. Amen. Alors que ce n'était pas encore le jour du Seigneur. Et Paul leur dit, non, non, frère, ce n'est pas ça. Lorsque vous lisez l'écriture écrite sur la muraille, vous regardez comment c'était. Ah, vous dites, ah, donc c'est le moment. Mais non, connaissez-en la signification également. Les événements qui se produisent sont autant d'écritures qui sont écrites sur la muraille. Les Thessaloniciens, l'apôtre leur dit dans 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est des temps et des moments. On vous a parlé du temps favorable. N'oubliez pas, Satan a aussi son temps favorable pour la tentation. Il ne vient pas vous tenter à n'importe quel moment. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, combien de fois ils n'ont pas dit paix et sûreté? Et ils risquent encore de le redire. Mais il y a une paix et sûreté qui va être prononcée, qui vont être prononcées ici, qui seront justement l'accomplissement de ceci. Mais pour cela, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous le dise. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous enseigne. Alors, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Oui. Et il y a beaucoup d'écritures comme cela. Il y a beaucoup d'événements. Chaque âge a ses événements qui lui sont rattachés. Et dans chaque âge, les chrétiens sont censés se préparer. Soit à se coucher, si c'est bien longtemps avant l'enlèvement, soit à partir si c'est le moment de l'enlèvement. Paul n'en savait rien, Paul dit, mais ce jour-là, quand ça arrivera, nous les vivants, nous ne devançons pas ceux qui sont morts. Dieu, quand il a visité Abraham, et il a parlant avec Abraham, il dit à Abraham ceci, sache que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Genèse chapitre 15. Et les enfants d'Israël, si on peut parler d'écriture, quoique c'est Moïse qui a écrit cela, mais cela ne fait rien. les événements eux-mêmes parlent. Les événements en eux-mêmes sont parlants. Dans Genèse 15, verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Okay. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Qui connaît la limite de Dieu concernant l'iniquité des Amoréens? Chaque jour, ça, on pense avoir touché le fond, mais on trouve qu'il y a encore des choses plus abominables que ce qu'on pensait. On ne pouvait pas aller plus loin. Mais Dieu sait l'iniquité des Amoréens. Il faut que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Voilà encore une écriture. Et il s'est passé des choses parmi les Amoréens. Nous sommes ici dans Genèse 15. Il s'est passé des choses à Sodome et Gomorre. Eh bien, ça ne semble pas encore être le cas. Pourquoi? Parce que les descendants d'Abraham ne sont pas encore partis en esclavage dans un pays étranger. Donc, ce n'est pas encore le moment. Quoique l'iniquité à Sodome, eh bien, ça aussi atteint un comble. Parce que Dieu dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru. Et leur péché est énorme. C'est ce que dit Dieu. Dans Genèse 18, verset 20. Et à Sodome, eh bien, nous savons ce qui s'est passé. Et puis, Dieu dit donc, il faut que l'iniquité des Amoréens soit à son comble. Et lorsque nous regardons dans Lévitique 18, nous voyons où ils en sont arrivés, les Amoréens. Lévitique 18, non seulement les Amoréens, mais qui ça? Moïse nous dit, les Égyptiens également. Lévitique 18. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Vous voyez, ça s'est passé en Égypte, où vous avez habité. Quand ils ont vu ces choses se passer en Égypte, s'ils avaient compris cela, il a fallu que Moïse vienne leur dire que le Dieu de nos pères m'a visité et il m'a envoyé vers vous. Alors ils ont compris, effectivement, d'après les signes que Dieu l'avait visité pour les délivrer. Mais sinon, ces choses se passaient en Égypte, ils ne voyaient pas que c'était le temps de leur délivrance. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. N'est-ce pas? Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses que Dieu va chasser les Amoréens, afin que les enfants d'Israël puissent entrer dans le territoire. Maintenant, fallait-il savoir que c'était le moment? Et en ce qui nous concerne, pour les temps dans lesquels nous vivons, l'iniquité en soi qui se passe aujourd'hui dans le monde est aussi une écriture qui peut nous interpréter cela ce soir. Parce que Jésus dit dans Matthieu 24, et ce n'est pas quiconque qui voit ça. Le monde ne voit pas ça. Le monde vous dit qu'il faut laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent. Pour eux, c'est ça la liberté. Matthieu 24, verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue. » L'iniquité, c'est savoir que ce que vous faites est mauvais, mais vous le faites quand même. C'est savoir que le bien que vous devez faire, mais vous ne le faites pas. C'est ça l'iniquité. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ouais. Et dans ce royaume de Babylone, Nebuchadnezzar étant déjà parti, c'était le grand-père de Belshazzar, celui qui était roi. Toute la classe intellectuelle qui était là, aucun n'a su lire. Et lui n'a fait appel qu'aux siens. Heureusement, sa mère est arrivée, ou sa mère ou sa grand-mère, je ne sais pas très bien, je crois que c'était sa mère. Sa mère lui dit, écoute, dans ton royaume, du temps de ton père, puisque la Bible ne parle pas de grand-père, hein. Dans Daniel chapitre 5, verset 10, la reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Amen. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Il n'y en a pas deux, il y en a un. De l'intelligence et une sagesse semblables à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi ton père, oui, l'établirent chef des magiciens. Donc, son père à lui, le père de Belshazzar, a suivi ce que Nebuchadnezzar avait fait, le grand-père Nebuchadnezzar avait fait, et il l'a suivi. Il a aussi pris Daniel dans sa cour, reconnaissant que Daniel était l'homme de la situation, qu'il pouvait reconnaître les choses et qu'il avait en lui quelque chose que les autres n'avaient pas, que les autres sages du pays n'avaient pas. Donc, il a en lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi, ton père, l'établirent chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Vous pensez bien qu'en ce temps-ci où nous attendons la venue du Seigneur, nous avons besoin d'un Daniel au milieu de nous. Que Dieu nous envoie des Daniel parmi nous, afin que nous puissions reconnaître les temps dans lesquels nous vivons, afin que nous puissions agir conformément au temps dans lequel nous vivons. Que nous ne mettions pas en train de fabriquer une arche en bois de gopher, on ne s'en sortira pas avec ça. Ça, c'était pour un certain temps. Aujourd'hui, on peut entendre beaucoup de cris dans la prédication « La voix de Dieu ». Le frère nous dit clairement, il nous dit ceci, que nous entendons beaucoup de voix aujourd'hui. Encore faut-il être capable de discerner quelle est la voix divine. Encore faut-il être capable de faire la différence entre un cri ordinaire et le cri de l'archange. Amen. Pour cela, il faut avoir quelque chose en soi que les autres n'ont pas. L'enlèvement, nous le savons, ce sera un événement secret. Malgré qu'il y aura un cri, le monde n'entendra pas ce cri. Le monde ne saura pas. On va seulement constater que certaines personnes ont disparu. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas informés, ils ne sont pas enseignés sur le cri qui doit être donné. Mais toutes ces choses se font en leur temps. On ne va pas vous dire ça 10 000 à l'avance. 10 000 ans à l'avance, non. Pierre, avant que ne tombe le Saint-Esprit, ne savait rien. Quelques minutes avant, il ne savait rien de ce que Joël disait. Il a peut-être entendu cela, il en a parlé, il a entendu prêcher, lire dans les synagogues, il a entendu cela, mais il ne savait pas que ce qu'ils étaient en train d'attendre, c'était réellement l'accomplissement de ce que Joël avait dit. Tout ce qu'ils savaient, c'est que le Seigneur leur a dit, attendez la promesse du Père. Et cette promesse s'est accomplie. Gloire à Dieu. Et lorsque Daniel est venu, Daniel avait cette faculté de pouvoir lire l'écriture de Dieu. Il avait cette faculté de pouvoir lire cela et d'en donner l'explication. Et nous remarquerons que lorsque Daniel va venir, lorsqu'on va l'appeler, à aucun moment il ne va demander du temps et dire, bon, au roi, laisse-moi aller voir les frères, je vais avoir une réunion de prière avec eux pour savoir ce que Dieu a à me dire là-dessus. Non, les événements même qui se sont passés parlaient d'eux-mêmes. Absolument, d'eux-mêmes. Dans Daniel chapitre 2, lorsque Nebuchadnezzar avait eu son songe, Daniel a demandé un délai. Il a dit au roi, Nebuchadnezzar, il a dit au roi, donne-moi du temps et je te donnerai le songe ainsi que son interprétation. Daniel chapitre 2, verset 14. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arioc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Il a demandé du temps. Il a demandé un délai. Aujourd'hui, dans le monde, on vous dira, il a demandé un moratoire. Quand ils aiment des mots compliqués, c'est juste un délai. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire ses compagnons, Hanania, Michaël et Azaria. Ses compagnons. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Là, ils avaient besoin d'une réunion de prière. Par contre, cette écriture écrite sur la chaux du mur. Donc le mur, il y avait de la chaux. Prenons ce tableau blanc, le mur était fait avec de la chaux. La chaux, c'est blanc. L'écriture qu'on peut appliquer sur ce tableau, eh bien, elle est on ne peut plus clair. C'est clair ce qui est écrit. Vous n'avez pas à cligner des yeux pour regarder. Non, c'était on ne peut plus clair. Et encore, là où ça avait été écrit, c'était en dessous du chandelier, hein, pour que la lumière puisse ainsi illuminer le tableau, si je peux dire. Même pas en dessous du chandelier, en face du chandelier. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Ce n'était pas fait en cachette. Ça a été écrit. L'écriture, elle est là. Le roi dit, celui qui pourra me lire ça et me l'expliquer, je lui ferai tel cadeau. C'était clair. La parole de Dieu, elle est claire. Bien sûr, c'est écrit en énigme. Elle est claire pour ceux à qui cela est destiné. Vous pouvez discuter de la divinité de Jésus-Christ avec quelqu'un qui ne voit pas ça pendant des heures, des jours et des années. Il ne verra jamais cela. Mais par contre, vous, si cela vous a été donné, en quelques secondes, et à chaque fois qu'il est question de préparer une prédication, en apprenant des choses, surtout dans les points d'enseignement, il y a des choses qui finalement, vous voyez, c'est tellement clair. Quand, par exemple, ce qu'on a vu, je crois que c'était dimanche passé ou le dimanche d'avant, lorsqu'on lui dit, tu es le Saint de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, l'Éternel dit, je suis le Saint d'Israël. Tous les titres que l'Éternel avait dans l'Ancien Testament, nous les voyons s'appliquer en Jésus-Christ. C'est tellement simple, c'est tellement clair. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais il y a quand même des gens qui doutent, qui n'arrivent pas à voir ça. Celui qui pourra me le dire, eh bien, voici la récompense qu'il obtiendra. Mais Paul nous dit, dans 1 Corinthiens, il dit, personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur sans le Saint-Esprit. Ouais. Il faut avoir en soi cet esprit-là, cette sagesse, puisque le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. Et il faut absolument avoir cela, que pour pouvoir non seulement le proclamer, mais le dire avec conviction. Jésus est Dieu, fait homme, ça ne fait aucun doute. Vous pouvez fermer les yeux, ouvrir votre Bible à n'importe quelle page de la Bible et vous verrez que Jésus est Dieu. C'est là où le frère dit, si vous lisez la Bible, n'importe quel verset que vous lisez, si vous ne le voyez pas, relisez-la. C'est clair, mais c'est seulement destiné à, pas à quiconque, mais à une certaine catégorie de gens. Et soyez heureux si cela vous est destiné. Soyez heureux si cela vous est apporté. Or, beaucoup de gens comprendront. Quand vous prêchez que Dieu est grand. Beaucoup de chrétiens le diront, qu'il est tout-puissant. Vous irez dans telle église pentecôtiste, on vous le dira. On vous dira, il guérit les malades, c'est très bien. Amen, il le fait. Vous irez chez les baptistes, on vous dira que Dieu est le Dieu tout-puissant. Amen, il l'est. Mais, quant à savoir lire ce qui se passe aujourd'hui, vous verrez tous les sages actuels, les Chaldéens, les astrologues, vous les verrez tous dans leurs petits souliers. chacun donnant une théorie. Si vous entrez dans un magasin où on vend, entre guillemets, des livres religieux, vous verrez plein de livres avec plein de théologiens, de théologiens différents, et quasi chaque théologien a son interprétation. Les événements eux-mêmes sont une écriture. Donc, il n'a jamais convoqué une réunion de prière, mais en voyant comment les choses se passaient au palais du roi, rien qu'avec le regard, voyant comment ils se sont adonnés au péché, chapitre 5, Daniel, verset 1er, le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Vous savez, nous avons lu cela dans Lévitique, dans Exode, il est bien dit que ces ustensiles sont sacrés. Le simple fait d'aller les chercher pour se divertir, pour faire ce qu'ils se sont mis à faire, ça signait son arrêt de mort. Amen. Pour Daniel, c'était évident. C'était évident qu'il n'en avait plus pour longtemps. Il avait en lui la sagesse des dieux. Belshazzar y est allé trop loin. Oh. Non, pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. C'est son arrêt de mort. C'est son arrêt de mort. Et vous savez, il n'y a pas que les événements. D'abord, la manière dont il s'amusait ici. Il savait que c'était la fin. Vous savez, ce livre de Daniel, c'est un livre écrit qui nous instruit sur notre temps. Ce qui se passe ici, c'est un type du temps dans lequel nous vivons. C'est à ce moment-là l'entrée des gentils. Quand ça, quand les gentils ont commencé, donc depuis Nebuchadnezzar, et ici les païens, donc les gentils, arrivés à ce point-là, ça nous montre que aujourd'hui, en tant que type d'aujourd'hui, lorsque le monde arrive à ce point-là, lorsque le monde s'amuse à prendre des écritures pour en faire des blagues sales, lorsque le monde s'amuse à utiliser les écrits du Dieu vivant, n'oubliez pas, Dieu a écrit sa parole avec son doigt. Avec son doigt. Lorsque ça devient un sujet de raillerie, le monde en est à sa fin. C'est une évidence. C'est ce que nous voyons, ce que nous entendons, c'est une écriture qui est écrite. Et il tremble. Comment ça, frère? Ils tremblent. Ils ne comprennent pas pourquoi la terre se dérègle. Ils ne comprennent pas pourquoi le climat se réchauffe. Ils ne comprennent pas pourquoi la terre se pollue. Comment est-ce que l'océan est plein de plastique? Non seulement cela, plein de catastrophes de bateaux pétroliers qui provoquent des marées polluantes, des marées noires en plein océan. Ils ne comprennent pas comment ces choses arrivent. Mais nous, nous comprenons, c'est la fin. Le monde arrive à sa fin. Amen. Et pour Daniel, ce n'était pas du tout un mystère, ce n'était pas si mystérieux que ça. On l'a appelé, il est venu. Et il a donné l'explication. Verset 13. D'abord, verset 12, il nous dit que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda ?» Oui, c'est moi. On a beau vous mépriser, mais les choses de Dieu, hein. Dieu vous les a révélées. Il veut lui rappeler que c'est un captif. Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, hein? Vous ne valiez pas grand-chose devant mon père ou devant mon grand-père, que le roi, mon père, a amené de Juda. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. Il lui parle en le méprisant. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication. Entre nous, est-ce que toi, le captif, tu peux nous lire ça? Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que toi, que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture, si tu peux, et m'en donner l'explication, eh bien, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Comme on l'a dit, Daniel ne convoque pas de réunion de prière. Daniel répondit en présence du roi directement. Garde tes dons et accorde à un autre tes présents, je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ce qui se passe au roi, c'est que tu es à la fin. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait, il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance qu'il t'a transmise d'ailleurs, ça c'est moi qui dis ça, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Verset 22, vous pouvez lire l'entièreté chez vous. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Oui, il savait. Il était peut-être enfant à l'époque, mais il le savait. L'iniquité. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. C'est terminé. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. C'est terminé. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu ne pèses rien. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voici l'explication. Verset 29, aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Un royaume qui est voué à la mort, ça ne sert plus à rien. Cette même nuit, amen, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. L'écriture est sur la muraille en ce qui nous concerne. Le monde arrive à sa fin. Ces vents tempétueux que nous voyons, les catastrophes naturelles. Vous apprenez qu'au Brésil, il a plu, il y a eu des pluies diluviennes. Ils sont morts par dizaines, si pas par milliers, à cause des pluies diluviennes. Vous entendez des choses incroyables qui se passent aujourd'hui dans le monde. Il y a quelque temps, à Kinshasa, un câble électrique s'est cassé en plein marché. Un câble à haute tension est tombé sur des gens. Ils sont morts, à peu près une trentaine, une cinquantaine de personnes. Je ne connais plus le nombre. Des catastrophes bizarres. Des tremblements de terre. Des tempêtes. En venant ici, à 3 km de chez moi. D'abord, quand je rentrais de l'hôpital ici de Cavel tout à l'heure, je suis parti chercher mon épouse, je la ramenais à la maison. Il y a mon fils qui m'appelle, il me dit, papa, où es-tu? Moi, je dis, je suis sur le ring, je rentre. Il me dit, ah non, j'avais déjà dépassé le ring. J'étais déjà près de la gare de Dilbeek, mais j'avais pris un autre chemin que celui que je prends d'habitude. Il me dit, ne passe pas par l'église de Grand Bigard, un arbre est tombé sur deux voitures. Moi, je dis, et en venant, je dis, on a peut-être déjà dégagé. Eh bien non, j'ai dû refaire demi-tour pour aller chercher le chemin que j'ai pris tout à l'heure. Des catastrophes pareilles. Cette tempête a été annoncée. Parce que des gens étaient dans... Oui, les voitures étaient en pleine chaussée. C'est qu'il y avait des gens à l'intérieur. Non, sont-ils morts? Je n'en sais rien. Ces choses qui arrivent aujourd'hui, on se demande pourquoi est-ce que ça doit arriver. Des vents qui soufflent à 130 km/h depuis, ça fait 30 ans que ça n'a plus, depuis 90, je crois, on n'a plus jamais eu ce genre de tempête. Eh bien, il commence à en avoir. Et eux-mêmes nous disent qu'il va y en avoir de plus en plus fréquemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde a été compté. Amen. Le monde a été compté. Dieu a compté le règne du monde et Dieu est en train d'y mettre fin. C'est l'écriture qui est écrite. Vous, les chrétiens de ce jour, ceux qui suivent, savent que le monde en est à sa fin. Pesé, le monde est pesé dans la balance et il est trouvé léger. Divisé, ils ne s'entendent pas, les uns les autres. Et les tempêtes, c'est un type de guerre, de combat. Quand nous voyons la crise en Ukraine, pour terminer, on va terminer par là. Les armes que les Russes sont en train de démontrer, mais c'est pour les utiliser. Mais quant à vous, vous et moi, nous savons ce n'est pas encore le moment. Pourquoi? Parce que nous sommes encore là. Ils vont rouler des mécaniques. S'il y a conflit, il va y avoir un conflit localisé. Mais généralisé, tant que vous êtes encore là, cela n'arrivera pas. Mais quand le Seigneur vous prendra, mais ils vont déclencher. Ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, ce pays qui a été béni de grands évangélistes, de grands prédicateurs, de grands réveils, eh bien, ce qui s'y passe aujourd'hui, vous regardez les États-Unis en arrivent à leur fin. L'Europe également. Ils en arrivent à la fin. Dans Ézéchiel 38, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi Gog, prince de Roche, Gog c'est le prince, Magog c'est le pays, de Méchec et de Toubal. Ainsi de suite. Scofield dit ceci. Ces pays qui sont annoncés là, c'est une allusion aux puissances du nord de l'Europe. La Russie en tête. Ça, c'est selon la vision de Scofield. Donc, la Russie, Gog, là, ces pays du nord, la Russie. La Russie et les puissances nordiques sont depuis longtemps les persécuteurs d'Israël dispersés. Oui. Au temps du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a réprimandé les conducteurs de son temps parce que il savait, comme exactement aujourd'hui, on nous a annoncé déjà à l'avance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en ce moment, nous sommes un nombre si restreint. D'autres sont à la maison. On nous a annoncé à l'avance qu'il y aura une tempête, que les vents souffleront ici à l'intérieur des terres entre 80 et 120 km/h. Du côté de la côte, ça peut même atteindre des pics de 130 à 150 km/h. Ça, le monde peut le faire. Mais quant à l'autre tempête qui arrive, ça ne savent pas. Et Jésus leur a reproché en son temps. Dans Matthieu 16, dans Matthieu 16, Il dit, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui. Oh, les pluies qui tombent, ils nous préviennent, ils le savent. Ça, ils savent vous dire, car le ciel est d'un rouge sombre. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. L'aspect du ciel, c'est facile pour eux. Ils ont des ordinateurs pour cela. Ils peuvent même vous dire que la tempête va souffler entre 14 et 20 heures où les grands pics sont prévus vers 17 heures, 18 heures. Ils savent tout ça, mais quant à vous dire, c'est la fin des temps, ils n'arrivent pas à le voir. Il faut un Daniel pour ça. Ou il faut des Daniel pour ça. Ceux en qui Dieu a mis un esprit de sagesse, des lumières en lui, pour l'éclairer, et toutes ces choses, n'est-ce pas ? Tout ce que Dieu aura mis en lui pour savoir que réellement nous sommes au temps de la fin. Et comment cela ? Par l'écriture qui est écrite sur la muraille. L'écriture peut être une écriture des lettres, mais apparemment les Chaldéens, ces profs du NIF, ils n'étaient pas très au courant de ça, mais ça peut être les événements. Parce que Daniel lui a parlé à Belshazzar. Il a dit, tu as pris les ustensiles du temple, tu t'en es servi avec tes concubines et tout ça, eh bien, sache que ton royaume est compté et divisé et pesé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à vous tous qui êtes chez vous et vous qui êtes là ce soir. Prions. Père céleste, il y a cet avantage que tes enfants ont, c'est de pouvoir s'asseoir à tes pieds et d'ainsi d'être instruit par toi, parce que toi, tu es le maître, tu es le rabbi. Et eux sont des disciples. Pour être ton disciple, tu fixes les conditions. Et tu n'admets que ceux qui ont, qui ont réussi, qui présentent ces conditions que tu as fixées. Et ils apprennent de toi tout ce dont ils ont besoin. Et notre cœur, nos cœurs, vraiment se tourne avec beaucoup de reconnaissance vers toi. Nous te remercions pour toutes choses. Te remercions pour ces choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents, mais que tu nous révèles à nous pauvres, des méprisés comme Daniel l'était. Et c'est bien toi le captif de Judas. Oui, c'est bien moi. Mais c'est que ces intellectuels n'ont pas pu faire, les sages de sa cour n'ont pu faire, c'est que quiconque n'a pu faire, cela a été fait par Daniel. Au travers des événements qui se passaient dans la cour du roi. Tout comme au travers des événements qui se passent aujourd'hui dans le monde, nous comprenons que l'accomplissement de la promesse d'aller à la rencontre du Seigneur est en train de se réaliser. Sois béni, Seigneur. Tu es merveilleux. Nous te remercions pour ce jour. Merci de nous avoir frayé le chemin au travers de cette tempête. Merci d'avoir conduit tes enfants, ceux qui ont pu venir. Que tu les ramènes, ô Dieu, de manière saine et sauve, qu'ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité, protégés par toi. Chacun. Et que nos maisons soient sous ta protection. Pour ceux qui sont restés chez eux, que tu les protèges également chez eux. Il nous est dit que des toits peuvent s'envoler. Nous te remettons les toits de tes enfants. Il nous est dit que beaucoup de choses peuvent s'envoler, être détruites. Oh, ces petites choses que nous avons qui nous protègent des hivers, des rigueurs de l'hiver, oh Dieu, sont sous ta protection. Nous t'avons confié nos maisons pour que tu sois le protecteur, pour que tes yeux soient continuellement fixés sur elles, sur ces maisons. Et que si tu tardes à venir, nous puissions trouver un endroit, des endroits où nous pouvons reposer nos têtes, t'y bénir, te louer, que ce soit des maisons de louange où l'on t'adore, où l'on te sert. Si tu frappes à notre porte, que nous puissions reconnaître ta manière de frapper et que nous te fassions entrer. Garde-nous sur le chemin du retour, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié en te demandant, Père, de nous rendre attentifs sur l'écriture qui est sur la muraille, tous ces événements qui passent autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse.